Donc, on va, cette fois, et je crois qu'on va y parvenir, s'attacher à en finir avec le stoïcisme, sachant que j'enchaînerai, alors peut-être pas aujourd'hui, je ne veux plus prévoir, sur l'écurisme, qui est une autre philosophie morale qui fait aussi l'objet de beaucoup de contresens, de malentendus aujourd'hui. Donc, sur le stoïcisme, je ne reviens pas sur ce qu'on avait abordé l'autre fois, enfin terminé l'autre fois, l'exercice, la discipline du jugement, la façon dont on se représente ce qui nous entoure, l'existence, le monde, les événements, les circonstances, et quand même la première discipline déterminante dans le stoïcisme, pour éviter notamment de s'abîmer dans des fausses représentations, dans des fantasmes, dans des fantasias qui permettent de s'égarer plus que de se guider correctement dans la vie, en réalité. Et donc, cette capacité au jugement, qui est de l'ordre de l'exercice de la partie la plus haute de l'âme, supérieure de l'âme, qui est hégémonicum, si on transcrit de façon française, la partie supérieure, hégémonique, de l'âme, permet donc cet exercice du jugement. On avait terminé sur un point important dans le stoïcisme et qui apporte pour la vie quotidienne. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui vont brouiller notre jugement, le pervertir. Il y a bien sûr la doxa, c'est-à-dire l'opinion. Et ça, c'est un héritage grec direct, hein, un héritage platonicien, c'est-à-dire être sous l'emprise des opinions. Ce qu'on appelle la doxa, c'est un problème terriblement actuel parce que c'est bien que c'est la principale raison de la perversion de notre démocratie et de notre république. C'est-à-dire qu'on est passé à des démocraties d'opinion où les gouvernants guident leur conduite uniquement à partir, par exemple, de ce qu'on appelle les sondages d'opinion. Or, déjà Platon et Socrate avaient dénoncé le fait que ça soit la source des dérives, des perversions, des jugements de travers. Ce qu'en grec, on appelle la doxa. Donc ça, c'est le premier facteur qui force. Quand je dis premier, c'est en ordre chronologique d'exposition, mais pas en hiérarchie, hein, de perversion des jugements, de faussement des jugements. Il y a un autre facteur sur lequel il faut agir et que les stoïciens mettent en avant, c'est quand on est sous l'emprise des passions mauvaises, d'où tout l'enjeu de discipline des passions. Et le trois facteurs qui faussent le jugement et qui est aussi déterminant, c'est l'habitude. Les habitudes, on prend des mauvaises habitudes, et ça dans les exercices spirituels que proposent les stoïciens, comme d'ailleurs les épicuriens. Hein. L'enjeu, c'est de faire des exercices qui permettent... Donc un exercice, c'est une répétition. Hein. Et l'enjeu par les exercices spirituels, c'est de créer des nouvelles habitudes droites, bonnes, qui vont permettre de s'arracher à l'emprise des mauvaises habitudes. Et ça, c'est bien un enjeu actuel. Hein. Il y a l'enjeu de bouleverser la mauvaise habitude. Voilà, donc les habitudes, c'est quand même quelque chose qui guide nos conduites, qui guide nos comportements, qui altère nos jugements. Et donc, un enjeu sur lequel les stoïciens insistent beaucoup, et notamment Épictète, c'est comment travailler à se déprendre des mauvaises habitudes. Alors, entendez bien, il ne s'agit pas de dire, et Épictète et les stoïciens ne disent pas, que toute habitude est néfaste. Il y a d'ailleurs des habitudes dans la vie quotidienne qui sont absolument nécessaires, qui permettent de s'alléger d'un certain nombre d'actes qu'on automatise. Une bonne habitude. Une bonne habitude. Ils visent à prendre des bonnes habitudes. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été, par exemple, repris par le christianisme. Vous savez, le christianisme, la philosophie chrétienne, a largement pompé à la fois le judaïsme et pompé la philosophie grecque et notamment les stoïciens. Et d'ailleurs, Ignace de Loyola, qui est le fondateur des jésuites à la Renaissance, s'est beaucoup inspiré des stoïciens. Et c'est le terme moderne qui reprend d'exercice spirituel. D'ailleurs, c'est un des livres de Loyola qui s'appelle « Exercice spirituel ». Ce que dit Loyola, c'est qu'il faut prier, la prière chrétienne, et que la prière, par rapport aux gens qui se demandent c'est quoi prier, la réponse de Loyola, c'est l'habitude, c'est créer une habitude. Une habitude de dire des paroles, de remerciement à la gloire du divin. Et ce qu'on retrouve chez les stoïciens, on le retrouve également antérieurement, je vous dis que le christianisme a pompé des deux côtés, dans le Talmud et la pratique juive, justement, de le judaïsme, la pratique juive dans la vie quotidienne repose beaucoup aussi sur le fait de se forger des habitudes.
C'est ce qu'on appelle un rituel.
Pas tout à fait. Mais le rituel participe d'habitude, mais la dimension du rituel, c'est une dimension sociale et collective. Et là, je vous renvoie, parce que je ne peux pas m'embarquer là-dedans, à ce magnifique petit livre de Frédéric Ildefonse, qui s'intitule « Il y a des dieux ». Il y a des dieux, où elle montre quelque chose qui m'a fait penser contre moi d'un bout à l'autre du livre, mais c'est salutaire. Où elle montre comment, à partir de deux exemples, un exemple de savoir et un exemple d'expérience vécue. L'exemple d'expérience vécue, c'est qu'elle a enseigné d'abord en Amérique latine et qu'elle a fréquenté des communautés animistes, chrétiennes animistes, avec des rituels importants. Et son expérience de savoir, c'est évidemment la société grecque antique. Et elle s'appuie sur ces deux sociétés, société grecque antique, où les rituels sont extrêmement importants. Ne serait-ce que les fêtes, toutes les fêtes en l'honneur d'Apollo ou en l'honneur de Dionysos, par exemple. Ce sont des rituels, tous les sacrifices aux dieux, etc. Et ce qu'elle montre, c'est que ces sociétés ritualisées permettent aux sujets individuels, alors, qui dans ces sociétés est juste émergent, n'est pas installé comme notre société contemporaine, elle montre comment ces sociétés de rituels offrent aux individus des plages de repos. Parce que quand on est dans un rituel, on est mu par l'habitude, par des gestes, des actes, des paroles codifiées qu'on répète, où est suspendue la question du sens de l'existence. Et elle dit que ça s'oppose à la prétention moderne de l'existentialisme, qui est qu'à chaque instant de la vie se pose comme une obligation la question du sens. La question du sens de la vie, du sens de l'existence. Quand on est un sartrien comme moi, il est clair qu'on est constamment sous le poids de la question du sens, qu'on est sans repos. Et ce que montre Frédéric Ildefonse dans « Il y a des dieux », c'est qu'à contrario, les sociétés de rituels permettent des plages de repos parce que la question du sens est suspendue. On ne se pose pas dans l'observance d'un rituel. On ne se pose pas la question du sens.
Oui, mais le rituel, c'est aussi un conditionnement. C'est-à-dire que ça permet de conditionner les gens.
Ah, ben ça peut être utilisé comme
oui,
ça.
Si c'est le but recherché, oui.
Donc c'est pas que
Et les nazis ont organisé des grands rituels. C'est en ce sens-là que les nazis, c'est pour ça qu'il faut penser constamment ce qu'a été le nazisme. C'était pas qu'une bande de brutes barbares, c'est des gens qui étaient guidés par une pensée, quand même. Et une pensée redoutable et qui marche. Et notamment, je ne dis pas que l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. Et c'est vrai qu'on est dans une période un peu inquiétante aujourd'hui, de ce point de vue-là, et qu'il faut être d'autant plus vigilant par rapport aux phénomènes qui peuvent se développer et repenser comment le nazisme a pu se mettre en place. Regardez ce qui se passe en Italie, en Hongrie, en Pologne, bientôt la moitié de l'Europe va être du côté d'une idéologie qui ressemble un petit peu à ce qu'était, si ce n'est le nazisme, en tout cas le fascisme italien. Hein. Bref, c'est une parenthèse. Voilà, pour terminer sur la question, au niveau social, le rituel forge des habitudes collectives, incontestablement. Si.
Alors, ce que dit Lévinas en parlant du rituel dans le judaïsme, et dans son opposition à une optique sartrienne, et en opposition à une suffisance de la conscience individuelle pour comprendre la vie. Ce que critique Lévinas, c'est la suffisance de l'individu contemporain qui veut trouver les raisons de tout et finalement se construire une image de sa vie comme ayant sens. Et là, le tournant, c'est Camus. Alors, ce que dit Lévinas qui est intéressant, c'est que le rituel rattache à un amont de tradition, à une dimension historique qu'on ne maîtrise pas complètement. C'est-à-dire, il dit qu'il y a des limites à la connaissance et à la conscience. Et je trouve ça intéressant aussi parce qu'il relie justement au passé et aux autres hommes au-delà de nos possibilités de compréhension. Maintenant, on peut être complètement abruti dans les rituels, mais Lévinas dit qu'il ne faut pas réduire et reléguer la dimension du rituel parce qu'elle signifie quelque chose, en particulier au niveau de ce qu'on ne connaît pas, au niveau de l'inconscient, etc. etc.
Alors, ça se raccroche à autre chose qu'on ne va pas aborder parce que là, on est embarqué ailleurs.
Ouais.
Ça se raccroche au fait que la limite, je la situerais plutôt là, de l'existentialisme, c'est une limite de l'individu moderne, l'individu contemporain, qui est qu'en gros, il se considère d'une certaine manière comme un atome qui part de rien. Et Sartre évoque la question de la nouvelle naissance. C'est-à-dire un sujet individuel se forge à partir de sa nouvelle naissance, qui est une auto-naissance. Ce qui veut dire qu'il barre toute inscription dans une lignée de générations. Ce qui est sous-jacent à ce que tu dis, c'est que Lévinas, au fond, et ça c'est sa leçon d'Eich, Lévinas considère qu'on ne peut pas se penser sujet individuel comme un chaînon isolé, un atome isolé, on ne peut, ce qui fait sens, c'est de se, et d'où le rituel, c'est de se raccrocher à la lignée des générations, qui est quand même une dimension majeure du judaïsme. C'est là-dessus qu'il y a hiatus important. Après, Sartre reviendra sur ça, notamment avec son dialogue, lors de son dialogue avec Benny Lévy, notamment. Alors, je crois qu'il y a un contresens qui est fréquent par rapport au stoïcisme et à cette distinction, discrimination fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et la question des limites de la personne. Le stoïcisme ne dit pas que l'individu doit ne pas explorer ses limites. Ce n'est pas sur le même plan. La meilleure preuve en est, c'est qu'il y a une notion centrale dans le stoïcisme qui est la volonté et la liberté. Si effectivement, se résigner à ce qui ne dépend pas de nous signifiait de renoncer à la liberté et de se soumettre unilatéralement à un destin loin, implacable, venu de l'extérieur, tu aurais raison, mais le stoïcisme ne dit pas ça. Le stoïcisme pense en même temps, il faut tenir, alors je vais prendre une autre expression, il faut tenir les deux bouts de la chaîne à la fois, sachant que si on tient un bout, on ne tient rien. Ce qu'une forme de dialectique moderne ne voit pas. Donc en même temps, il faut penser le fait qu'il y ait, ce que dit le stoïcisme, tout un monde extérieur à soi, sur lequel on ne peut rien. Tu n'y peux rien sur le fait que tu es né beau ou laid, que tu es né riche ou pauvre. Tu n'y peux rien, je suis désolé. On ne va pas dire qu'on va repousser les limites pour devenir riche ou beau à la naissance. Si tu nais handicapé, tu nais handicapé. Donc on ne peut pas nier. Ce que l'individu moderne a tendance à nier et d'où son fantasme qu'il veut réaliser de l'immortalité. On est dans un individu moderne qui a le fantasme de l'illimité. J'y reviendrai après. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se soumettre passivement à tout et renoncer à la volonté et à la liberté. Dans le stoïcisme, la volonté et la liberté, ce sont des éléments centraux pour penser la morale stoïcienne. Donc, si tu veux, ce n'est pas le même plan. Oui, la question de l'instinct de survie, on va y venir un peu après, mais je pense que ce n'est pas que ça qui guide ta vie. Et la scène, repartons de la scène très concrète que tu évoques, quelqu'un arrive avec un flingue, quelles sont les réactions des gens? Quand même, c'est faire injure aux gens, même minoritaires, qui ont eu le courage dans des circonstances extrêmes où sa propre vie était en danger, c'est faire injure à ces gens-là que de ne pas réfléchir et prendre en compte sur le fait que, certes, peut-être 80% des gens vont être dans l'instinct de survie, vont se planquer et vont fuir en laissant les copains dans le danger. Mais il y a 20%, ne serait-ce que 10%, ne serait-ce qu'une personne qui va prendre sur elle pour être guidé dans cette situation, non pas par son instinct de survie, mais être guidé par une exigence, on va dire, morale. Et ça, on n'y peut rien. Ça prouve que s'il n'y a même qu'une personne, ça prouve qu'il y a un choix possible. Ce que disent les stoïciens. Et donc le choix, il n'est plus déterminé par simplement l'instinct de soi, comme disait Rousseau. Rousseau, et c'est la grandeur de la pensée de Rousseau et sa limite que j'aime rappeler, sa limite parce qu'il n'a pas développé. Il dit que l'homme, ému par l'homme naturel, ému par deux instincts. Il utilise le mot instinct, l'instinct de soi, donc c'est ce que tu dis, et l'instinct de pitié. L'instinct de pitié, c'est l'instinct, le désir d'autrui, c'est l'altérité. Et il dit, il y a les deux instincts en l'homme. Il n'y a pas qu'un seul instinct. Alors, c'est vrai que par la suite, il n'a pas trop développé dans ses écrits l'instinct de pitié, mais il est présent, il est posé en tant que tel. Donc tu vois, on ne peut pas dire, et la scène empirique que j'évoque, qu'un seul individu peut dire que peut décider dans une situation extrême, ça s'est passé là au moment des attentats, dans l'hypercachère, ou même à Trèbes. Ou même à Trèbes, plus récemment, il avait toutes les raisons, parce qu'en plus, il pouvait se cacher derrière sa fonction. L'officier, le lieutenant, je ne sais plus ce qu'il était son grade, il pouvait se cacher derrière sa fonction, qui est qu'il fallait qu'il survive pour diriger ses troupes. Non, il a décidé de prendre la place d'un otage. Oui, c'était la caissière qui était menacée. Donc, on ne peut pas évacuer cela, parce que si on évacue tout ça, je pense que profondément, on fait injure, on tient pour rien ces personnes-là. C'est comme la résistance pendant la guerre. Je veux dire, les résistants, c'est clair que ça a été une infime minorité, surtout au départ, et que massivement les Français ont été guidés par leur instinct de survie, et donc par toutes les petites compromissions, voire les collabos, etc. Mais même sans parler des collabos qui se ralliaient idéologiquement au nazisme, c'est simplement les petites compromissions quotidiennes qui est qu'on ne veut pas voir qu'il y a un juif à cacher, à la grâce les boulangers qui ont quand même caché des juifs qui étaient menacés, ils pouvaient ne pas le faire.
Distinction qui me paraît importante et qui part du livre de Robert Antelme qui a écrit L'espèce humaine.
L'espèce humaine, oui.
Pour distinguer radicalement les situations où on vit et les situations où on survit, qui ne mettent pas en jeu les mêmes choses. C'est pour ça que quand tu parles d'instinct de survie, ça ramène à un âge où il n'y a pas eu de société organisée, une certaine sécurité. Et ce que Robert Antelme explique, c'est que le but des nazis, c'est la déchéance de l'espèce humaine, c'est-à-dire
de l'humanité, oui.
De l'humanité, oui. Dans l'homme, oui. C'est-à-dire de justement ramener les gens dans les camps de concentration à des réflexes de survie. Or, je pense que c'est très important parce que quand on vit normalement, on peut avoir une morale, on peut avoir une générosité, on est dans une certaine sécurité.
Mais si tu veux, c'est la limite à mes yeux du livre de Robert Antelme. Et je lui opposerai, par exemple, mais il n'y a pas qu'elle, Charlotte Delbault, qui ne dit pas ça. Et de fait, même dans les camps, même dans les situations, même à Auschwitz, le camp de la mort, il y a eu des comportements différents. Tout le monde n'a pas été ramené à la logique de survie. Il y en a qui ont. Que la distinction entre les situations... Oui, je pense que la distinction... Elle n'est que de degré, mais elle n'est pas qualitativement déterminante.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux états. Il y a un état d'une relative sécurité, où on peut être généreux, et il y a des états où, effectivement...
Ou non. Le choix, il est présent dans les deux...
Des situations de péril,
oui.
Où les mêmes personnes ne réagissent pas nécessairement de la même manière,
mais...
et le vecteur, pour réveiller... la peur primaire et l'instinct de survie dans des situations extrêmes, le moteur, c'est la terreur. C'est pour ça qu'il faut bien peser l'impact de la peur et du terrorisme sur les comportements des gens.
Oui,
si
mais...
ça réveillait.
Oui, mais c'est pas la fin de la question, parce que fondamentalement, même à Auschwitz, il y avait le choix et il y a des gens qui ont fait des choix.
Il y a des gens qui ont fait des choix. Et quand les gens font des choix comme ça, on les passe bien à la télé pour masquer qu'il y a une peur profonde d'un péril aujourd'hui et dont on use et dont on abuse. C'est-à-dire, pourquoi on a tellement besoin de mettre ça en avant?
Alors ça, c'est un problème plus de philosophie politique. Et là, je renverrai à Thomas Hobbes et notamment à son Léviathan. C'est-à-dire qu'en gros... il fonde son contrat sur la peur. Et les politiques, et particulièrement au moment des élections, jusqu'à aujourd'hui, répètent cette leçon-là. C'est-à-dire que rien de tel que de faire peur pour que les gens votent pour celui qui met en avant la peur. Parce que, je rappelle Hobbes, son point de départ, c'est ça la peur. L'homme est un loup pour l'homme. Et l'instinct de survie de l'individu, par rapport à l'autre qui est un loup, c'est de se protéger du loup et renonce à sa liberté en remettant sa souveraineté entre les mains d'un tiers qui va être l'État au final. Et l'État qui va le protéger de la menace de l'autre. Donc le ressort est bien la peur. Et c'est génie de Rousseau d'avoir fondé son contrat sur des principes de départ complètement différents. Mais effectivement, Hobbes, c'est sa modernité, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'organisation politique repose sur Hobbes. Sauf que Hobbes n'est pas tout, n'est pas le tout. Et qu'il faut repenser Rousseau, il faut penser qu'il y a d'autres façons de fonder un contrat que la peur et la sécurité. Ça, c'est un enjeu essentiel.
Mais il y a une chose que je veux. Est-ce que dans le stoïcisme, il y a une lutte contre la mort imminente ?
Alors,
une préparation à la mort, parce que c'est un
préparation à la mort, bien voilà. Sûr.
C'est
bien
ça
sûr.
Qui est important, parce que
préparation à la mort, mais pas peur de la mort.
Si on a une crise cardiaque, ça revient au même. Enfin, je veux dire, il y a la mort qui est imminente pour chacun
oui.
d'entre nous.
Oui.
Donc, il faut se préparer à mourir. Enfin, je veux dire. Aussi. Oui.
Ah ben ça, c'est façon, ça fait partie clairement. On y reviendra pour finir des exercices spirituels de. Du stoïcisme, faut apprivoiser la mort. Mais c'est ce que je disais l'autre fois. Je renvoie au livre de cet historien qui est décédé il y a quelque temps, des mentalités, qui s'appelle Philippe Ariès, et qui a beaucoup travaillé sur les représentations de la mort. Et il montre que le rapport à la mort a beaucoup varié selon les périodes. Et c'est ce qui ne permet pas de comprendre l'attitude des Grecs par rapport à la mort, parce qu'on oublie que leur représentation de la mort n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Et Ariès montre que sa formule, c'est qu'on est passé d'une mort familière, apprivoisée, à une mort interdite, est caché. Et aujourd'hui, on est dans cette mort interdite, cachée, taboue, où on ne meurt le plus souvent pas au milieu des siens, on meurt à l'hôpital, on meurt séparé. Les cimetières dans les villages, alors je veux bien que ça soit une raison d'urbanisme, mais cette raison est faible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans tous les villages, les cimetières étaient au centre du village, oui, près de l'église. Et on les a tous enlever du centre pour les mettre en périphérie. Symboliquement, cette restructuration spatiale me paraît très significative. Donc ceci pour dire que la mort, effectivement, c'est une question de représentation, c'est-à-dire, pour reprendre le terme stoïcien, de jugement, d'appréciation, d'évaluation, que ce n'est pas une vérité, un fait brut comme cela, que ce qui détermine notre rapport à la mort, c'est la façon dont on perçoit la mort, dont on se la représente, dont on l'évalue. Ben, en gros, je ne vais pas revenir là-dessus, ça nous renverrait à l'anthropologie, mais en gros, toutes les sociétés dites holistes, dites traditionnelles, sont des sociétés où la mort est apprivoisée, comme dirait Ariès, c'est central. Et aussi, les rituels servent à ça. Voilà, c'est vraiment une particularité, une singularité de notre société moderne. Et ça, Ariès le montre bien, ça s'est joué progressivement à partir de l'avènement des temps modernes, c'est-à-dire à partir de, disons, de la Renaissance, grosso modo. Et du coup, on est dans une société qui a des représentations inédites. Par exemple, de la violence, on pourrait montrer comment on est dans une société qui se dit très violente ou soumet à la violence, alors qu'objectivement, il y a des historiens qui le montrent, on est dans une société beaucoup moins violente. Mais sauf que le sentiment commun, c'est qu'on est dans une société d'extrême violence, un monde. Et en fait, ce n'est pas vrai historiquement. Sauf que la tolérance collective à ce qu'on appelle la violence a complètement changé. Et je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien. J'en reste au constat. De rien, ça veut dire que la violence est là aussi, comme la question de la mort, déterminée par les représentations que l'on a de la chose.
Pour la violence, je pense qu'elle... Et pour revenir à Hobbes, je pense que la violence, elle a changé de nature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État avait donc été chargé de protéger les individus. Les individus se confiaient une partie de leur liberté à l'État pour les protéger.
Mais ça, c'est en particulier la fondation de l'État-nation.
Le grand changement aujourd'hui, c'est que cet État-nation qui est censé protéger les individus, lui, il est remis en cause complètement par un phénomène qui s'appelle la globalisation, la mondialisation. D'où aussi le désarroi de certaines personnes, certains citoyens et de certains groupes qui sentent qu'ils ne peuvent plus confier leur sécurité à l'État national. Et ça, je pense que c'est une apparition, c'est un changement fondamental.
Mais c'est très juste, mais je rappellerai mes séances introductives de cette année où j'évoquais qu'il y a une actualité du stoïcisme. Alors, qu'on n'est pas obligé de suivre du tout, et ou de suivre jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on abordera l'épicurisme. Il y a une actualité parce que le contexte de la période hellénistique dans lequel a émergé, s'est inventé le stoïcisme, présente plein de similitudes. Alors là, il ne s'agit pas de faire des anachronismes faciles, mais présente plein de similitudes avec notre période. Période de mondialisation à l'échelle des Grecs antiques, c'est avec l'Empire macédonien qui va jusqu'à l'Inde, jusqu'à l'Indus, jusqu'à l'Inde, et avec des brassages de population, des phénomènes d'immigration extrêmement importants, c'est ce qui explique que les pensées orientales, les Grecs les ont connues, et qu'on peut voir des proximités entre des sagesses orientales et la philosophie grecque, en tout cas de l'époque hellénistique, que l'individu était sorti du cadre sécurisant d'être citoyen de la cité, de la police, P-O-L-I-S, qu'il y a une perte de repères, une angoisse collective qui se développe, perte de sens, que les jeux de hasard triomphent, qu'on se remet à tiquer la chance. Voilà, donc il y a plein de similitudes.
Aussi,
et donc ça justifie à mes yeux le fait qu'il faut s'intéresser de près. Ce qui ne veut pas dire adhérer, la philosophie ne signifie pas adhérer, mais s'intéresser de près au stoïcisme, qui a été une réponse pour l'homme grec de l'époque face à des problèmes qui sont, encore une fois, tout en se préservant de tout anachronisme, qui sont assez analogues aux problèmes de notre monde contemporain. Voilà. Mais j'ajouterais, pour terminer la réponse que je peux faire comme ça rapidement à Jacques, ceci, ce qui prouve que le stoïcisme est une pensée de l'en même temps, nécessité, destin d'un côté et d'un autre côté, liberté, choix, volonté. Les stoïciens, et notamment les stoïciens de l'époque impériale, donc Marc Aurèle, Épictète, ont été parmi les plus grands résistants aux empereurs tyranniques à Rome. C'était politiquement des résistants qui ont risqué leur vie, qui ont pu être expulsés, etc. Enfin, qui se sont exilés pour échapper à la prison par rapport aux empereurs dictateurs. Et vous savez qu'il y a eu toute une série d'empereurs dictateurs. Donc, ça prouve bien, là c'est un fait historique, que le stoïcisme n'était pas antinomique avec le fait d'opposer une résistance, de faire un choix de résistance et de liberté, bien au contraire. Voilà, alors, j'en reste là, donc, sur la discipline du jugement, qui était en fait un simple rappel. Mais les rappels, c'est terrible, parce qu'à chaque fois, ça permet de préciser, d'approfondir. J'en viens maintenant à un deuxième point qui est essentiel, qu'on a déjà abordé, mais là, il faut creuser un peu plus, la question de la discipline du désir, la question du désir dans le sens. Alors, là aussi, évitons un contresens massif sur lequel repose l'opposition courante et fausse moderne entre stoïcisme et épicurisme. On dirait que l'épicurisme, c'est jouir sans entrave. Voilà, c'est la loi du plaisir, être guidé par la toute-puissance du désir, etc. Alors que le stoïcisme, ça serait au contraire l'homme froid, l'homme tiède, la peine à jouir. Voilà, ça serait le stoïcien. Et qui nie le désir, qui veut vivre sans désir. Cela est totalement faux. C'est les espèces de caricatures fausses qui empoisonnent la pensée, quoi. Parce que cette paresse de la pensée qui caricature des pistes possibles pour l'existence, on les retrouve constamment, pour tout. Et la doxa n'est faite que de ça. Les jugements d'opinion de la doxa, c'est de même nature, quoi. On réduit tout à des caricatures et c'est le pire ennemi de ce qui permet d'avancer. Donc, un premier élément, le stoïcisme ne nie pas le désir et l'importance du désir. Il ne le nie pas, il le prend en compte. Le désir, il y a plusieurs mots en grec, mais en l'occurrence, c'est plutôt orexis, O-R-E-X-I-S, enfin transcrit comme ça. Et bien au contraire, et c'est là que je rejoins les propos de Jacques, le stoïcisme dit clairement que la première caractéristique du vivant, ce qui caractérise le vivant et l'homme vivant, l'être vivant, c'est le désir. Et que le désir, au fond, c'est quoi? C'est la conservation de soi. Le désir de persévérer dans son être. Ce qui renvoie, et de ce point de vue-là, il avait une leçon stoïcienne dans la tête, ce qui renvoie à d'un pan de la philosophie de Spinoza, qui est, lui utilise le terme latin, le conatus, C-O-N-A-T-U-S, ben, qui veut dire ça, qui veut dire le désir de persévérer dans son être, c'est ce que Rousseau appelle aussi l'instinct de soi. Tout ça, c'est les mêmes notions. L'instinct de soi. Donc, le désir, c'est ce qui caractérise le vivant de l'homme, et le désir, fondamentalement, c'est le désir d'être. Le désir d'être, donc de persévérer dans son être. Ce qui explique que, fondamentalement, il y a de l'infini dans le désir. Le désir, par nature, est infini, n'a pas de fin. Et c'est ce qui distingue, et ça, la distinction est essentielle, parce que couramment, on mélange complètement les deux. C'est ce qui distingue désir et besoin. Le besoin, c'est fini. Il y a une finitude de besoin. Le besoin repose sur le manque de l'objet, qui est ce qui fait que quand l'objet est là, le besoin cesse. Par exemple, on a besoin, la soif, c'est un besoin, la faim, c'est un besoin. À partir du moment où on boit ou alors on mange des aliments, le besoin cesse. Le problème, c'est que le besoin est surdéterminé, y compris pour la faim et la soif, par le désir. Par exemple, j'ai soif, donc je bois du whisky. Ah, ouais. Ben, il est clair que se substitue au besoin le désir. Pourquoi mange-t-on plus que de besoin? C'est un désir qu'il y a derrière. Mais ce qui s'avère, le piège du désir, c'est que le désir se manifeste avec un objet manquant, mais l'objet n'est que le support de l'expression du désir, n'est pas la finalité du désir. Ce qui veut dire qu'on le voit bien chez les enfants. Un enfant pleure parce qu'il veut tel objet, mais ce n'est pas la finalité. Donc on croit le calmer en la matière, mais on ne le calme pas. On ne le calme pas parce que le désir glisse d'objet en objet. D'objet support, d'objet qui ne sont pas la finalité du désir, fondamentalement. Et c'est là qu'on comprend profondément que l'infini du désir correspond bien au fait qu'au final, le désir, c'est le désir d'être. C'est ontologique, le désir. Et ça, c'est déterminant. Parce que c'est là que va se poser toute la morale stoïcienne, entre autres, par rapport au désir. Alors, est-ce que c'est le manque ou c'est, je dirais plutôt que le manque, c'est le fait qu'on n'atteint pas la plénitude d'être, la plénitude ontologique. C'est le fait que l'humain n'est pas un individu, un sujet, un être, un étant qui est dans la plénitude d'être. Contrairement à l'animal, contrairement à l'ange. Il y a un rapport entre l'ange et l'animal. Et que tout l'enjeu, c'est effectivement de tendre vers la plénitude d'être. C'est ça le désir. Mais le marketing et la publicité, toutes les agences qui se sont développées ces dernières décennies, ceux qui les ont développées, qui ont même inventé cela, c'est des anciens 68 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont pigé, ils ont revendiqué, mais ils ont pigé que c'était le principe du désir et du plaisir qui était le plus moteur, et que donc si on promouvait des marchandises, des produits à partir de là, on avait toute chance de que ça marche. Qui dirige, qu'on crée ces agences, ces boîtes, sont des gens qui étaient des 68 ans. Platon, c'est le mythe de... Le mythe de l'androgyne. C'est-à-dire que l'amour, Eros, naît du fait que l'individu humain a été puni par les dieux, a été séparé à Zeus, qui a pris ombrage de la puissance des hommes. Il y a une description très concrète, d'ailleurs, qui est que l'homme, il faut l'imaginer, ayant deux têtes, quatre jambes, quatre bras, et étant à deux faces, parce que c'est deux individus à coller. Et les deux individus à coller, c'est soit un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes. Et donc, séparés, l'être humain n'aurait de cesse de combler ce manque, cette séparation, c'est-à-dire la perte de l'autre moitié, comme deux moitiés d'orange qu'on recueille. Et donc, l'amour, c'est ça. D'où l'expression l'âme-sœur, trouver l'âme-sœur, etc. Ou une expression familière.
La moitié.
Parfois, la moitié. Trouver sa moitié. Voilà.
Comment on définit la femme ? La mitad del cielo.
L'autre moitié.
Ah oui, la moitié du ciel. Oui, alors, c'est pas tout à fait la même idée. Non, non, nous sommes la moitié du ciel. Ça a été repris, d'ailleurs, par les féministes en 70. C'est l'idée que l'humanité, il y a autant d'hommes que de femmes, grosso modo, donc c'est moitié-moitié, et l'humanité, c'est les deux moitiés, pensez les deux moitiés, c'est-à-dire la moitié masculine et la moitié féminine de l'humanité. C'est ça, en fait, derrière ça.
Je trouve qu'on mélange un peu les choses, parce que non, on a beau avoir eu l'argent et dire qu'on n'est jamais satisfait, on ne peut pas comparer... mon incomplétude métaphysique avec la situation des migrants, des gens qui sont en manque absolu. Ah, non, parce qu'on
attends,
dit...
Personne ne le fait,
on ne compare pas ça, là.
Non, on dit le désir, c'est jamais fini. Moi, je voudrais partir d'une autre image, de la société de consommation, où finalement, les gens sont bourrés de choses qu'ils n'ont pas demandées. Et les enfants... bourré de gadgets, de sucreries, de trucs.
Mais ça, c'est de l'ordre du désir, justement.
C'est de l'ordre de l'assassinat du désir. Désir, à ce moment-là, on souhaiterait qu'il se réveille, c'est-à-dire qu'il y ait une activité, un surgissement vital pour que l'homme se propulse vers autre chose que son propre... enfermement. Et on se rapproche ça un petit peu de Spinoza et de l'idée de la joie. Parce qu'on ne peut pas rester dans un pessimisme lacanien où on est toujours insatisfait. Je crois que cette insatisfaction métaphysique, elle est de l'ordre du désir de vivre et qu'elle nous fait surgir.
Oui, mais ça, il n'a pas fallu attendre la société de consommation pour faire ce constat. Je veux dire, c'est le constat des stoïciens. Du temps des stoïciens, le problème est similaire à ce que tu décris. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, je poursuis, donc les stoïciens, mais c'est une façon de faire écho à ce que tu viens de dire. Les stoïciens disent, on n'est pas dans la complétude, le désir est moteur, et le problème, c'est que le désir se porte sur toute une série d'objets manquants, et que tout l'enjeu de la discipline du désir, c'est d'éviter cela parce que ça nourrit les mauvaises passions et les frustrations, donc les frustrations dont donc les mauvaises passions. Et que c'est ce qui empêche d'atteindre un premier état de plénitude qui est l'ataraxie, ataraxia en grec, qui est l'absence de trouble, l'absence de perturbation. Et les frustrations du désir sont de l'ordre de ce qui empêche l'ataraxia. Voilà ce que disent les stoïciens et qui est essentiel. Donc il faut en fait exercer une discipline, une paideia, une pédagogie du désir pour apprendre à distinguer les désirs vains, les expressions vaines du désir, c'est-à-dire ce que disent aussi les stoïciens, c'est les désirs non réalisables, qui ne permettent aucune réalisation. Parce que c'est ça qui a abouti à la frustration. Je lis ceci, c'est un extrait de ce que j'avais donné l'autre fois pour illustrer. Rappelle-toi que la promesse du désir est d'atteindre l'objet du désir, la promesse de l'aversion de ne pas rencontrer l'objet de l'aversion et que celui qui, dans le désir, manque l'atteinte n'est pas heureux. Celui qui, dans l'aversion, fait la mauvaise rencontre est malheureux. C'est donc tu as en aversion cela seul, parce que dans le stoïcisme, l'opposé symétrique du désir, c'est l'aversion. C'est donc tu as en aversion cela seul, entre les choses qui sont à ta portée, qui va contre la nature, tu ne rencontreras rien de ce que tu as en aversion. Inversement, si tu as en aversion maladie, mort, pauvreté, tu seras malheureux. C'est-à-dire qu'en gros, il faut s'attacher à n'exercer ses désirs que sur... ce qui permet une réalisation. Sinon, on est dans la frustration. Alors, c'est du coup, mais ça, c'est une pédagogie. Épictète va plus loin, ce qui n'est pas compris. Et quand on avait lu les passages, j'ai vu que ça avait fait réagir, parce que l'homme moderne ne peut pas entendre ça. Épictète dit, dans un premier temps, supprime tout désir. Ôte donc la version de toutes les choses qui sont hors de notre portée et retourne-la parmi les choses qui sont à notre portée vers ce qui va contre nature. Quant au désir, pour l'heure, supprime-le complètement. Si en effet tu désires l'une des choses qui sont hors de notre portée, il faut nécessairement que tu ne sois pas heureux, mais parmi celles qui sont à notre portée, toutes choses qu'il serait bon de désirer, aucune n'est présente encore. Fais usage des seules impulsions et répulsions, légèrement pourtant, avec réserve et sans contrainte. Alors, c'est important la phrase, quant au désir, pour l'heure, supprime le contact. Mais souvent, on a toujours des lectures rapides, et ça nous arrange de supprimer des bouts de phrases, parce que c'est plus simple de simplifier.
On fait la confusion entre désir tout court et désir de, pas du tout pareil. Désir de, c'est un désir d'objet. On peut effectivement atteindre.
Oui, tout à fait.
Désir tout court, ça n'a pas de fin, puisque c'est
oui,
sans objet.
Mais au bout du
donc,
compte.
C'est pas du tout pareil, parce que c'est la notion freudienne de pulsion de vie. Le désir, oui, c'est la libido, en réalité.
Oui, mais.
C'est-à-dire cette pulsion de vie qui nous
tout à fait
tous et qui.
Mais
oui. Donc c'est pas ces deux choses, c'est vraiment une notion complètement différente.
Et le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en tirer en disant que c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que tu as raison, fondamentalement, et c'est ce que dit Épictète, le désir, c'est le désir, il n'y a pas de « de ». Sauf que il s'exprime dans le sujet humain par des objets, c'est ce que je disais tout à l'heure, les objets ne sont que des supports prétextes. Et ça porte sur des objets, d'où le fait que ça va générer frustration. Parce que fondamentalement, le désir ne s'arrête pas, parce que précisément ce n'est pas un besoin, aux objets supports qui ne sont que les, encore une fois, que les supports prétextes de la manifestation du désir. Mais c'est en ce sens-là qu'on ne peut pas séparer les deux, c'est le même mécanisme. C'est-à-dire, les désirs sans objet s'expriment chez l'homme par des objets, par des désirs de. Le problème, c'est que le de n'est pas la finalité. Mais le de est une expression du désir. Néanmoins, on ne peut pas évacuer ça. D'où ce que disait Suzanne, c'est-à-dire que la société de consommation est une forme d'exacerbation de l'expression des désirs qui s'exacerbe par la multiplication des objets de désir, dont il a entendu que ce n'est pas la finalité du désir. Ce que l'on voit, encore une fois, dès les enfants dans un supermarché. Et c'est pour ça que si on cède instantanément à tout leur désir d'objet dans un supermarché, on n'en a jamais fini.
Oui, mais alors, ça veut dire qu'effectivement, il faut transférer le désir de... au désir tout court. Et quand on entend un enfant...
C'est ça la paldéa.
C'est ça, effectivement, l'éducation, c'est qu'on transfère le désir d'eux sur le désir tout court.
Bien sûr.
Et le désir, ça se parle,
bien
tout
sûr.
Simplement.
Et sans sens là, excuse-moi juste un point, même si ça ne résume pas tout, tu fais allusion à la psychanalyse, que les apports de Winnicott ne sont pas intéressants autour de l'objet transitionnel, parce que ça a à voir avec ça. Ça a à voir avec ça, voilà.
Mais la société de consommation a compris que les plus vulnérables sont les enfants. Donc,
bio,
ils s'adaptent aux enfants. De bio, ils infantilisent les adultes.
Non, parce que vous dites que quand c'est l'amour, c'est pulsion, quand c'est la vie, c'est désir.
C'est enclisis en grec, enclisis.
C'est
la version...
Il y a eu plusieurs problématiques, mais il faut lire au-delà du principe de plaisir pour savoir ce que c'est que la pulsion du moment.
La grande leçon du stoïcisme, c'est donc cette discipline du désir qui n'est pas la suppression des désirs, même si provisoirement il est conseillé à titre pédagogique de supprimer le désir ou de le mettre à distance. Mais ça, c'est une étape. Et c'est une étape de progression qui fait partie de la discipline. Et pourquoi cela? Pourquoi dans un premier temps? Parce que Épictète s'adresse aux débutants, aux progressants, et le débutant n'est pas encore capable de maîtriser le jugement, d'évaluer correctement, ce qui va lui permettre de ne pas se porter sur des objets de désir qui n'aboutiront à aucune réalisation. Et donc qui n'aboutiront qu'à la faire. Le débutant n'est pas capable d'éviter les frustrations. Et donc, plutôt que d'être dans la frustration qui rendra encore plus malheureux, il vaut mieux suspendre le désir, ça rendra malheureux. Mais au moins, on sera moins malheureux que par la frustration. En gros, c'est ça, la mécanique. Dans un deuxième temps, on est capable, peu à peu, de discerner les objets de désir qui permettent, non pas de satisfaire le désir, encore une fois, mais de nous mener dans cette voie de progression vers au fond, le fait que le désir, c'est la plénitude, c'est le bonheur, en réalité, c'est le bonheur d'exister. Et toute l'ascèse stoïcienne, ça aboutira à ce terme, qui est l'ataraxia, alors qui est plutôt un terme, mais Épictète l'utilise aussi, c'est plutôt un terme favori des épicuriens. Et lui utilisera plutôt, mais il utilise encore une fois ataraxia, l'autre terme qui est apatheia. Alors, qu'a donné en français l'apathie? Donc là aussi, l'apathie, c'est pas terrible. Sauf que l'apathie, c'est apatheia en grec, c'est quoi? C'est l'absence de souffrance. L'absence de souffrance.
Tout la sérénité.
Oui, ça, c'est ce qu'appellent aussi des stoïciens, il y en a plusieurs, ce qu'on traduit en français par la tranquillité de l'âme.
Le problème dans le désir, c'est qu'on l'a totalement couplé avec le plaisir.
Oui.
Donc c'est un couple un peu infernal.
Oui,
parce que désir entraîne plaisir. Or, nous parlons de la voix, ce qui n'a rien à voir.
Absolument.
Donc c'est des contresens très graves, parce que on retombe sur le désir-besoin, en réalité. C'est-à-dire que le besoin d'un plaisir entraîne un plaisir, alors que le désir qui va au-delà.
C'est pour ça qu'on est sans arrêt dans la doxa contemporaine, dans des contresens par rapport à ce qu'est le stoïcisme, et y compris à ce qu'est
le plaisir est sans cesse accessible.
Ce qu'est l'épicurisme. Parce que le problème, on le verra, c'est comme pour l'épicurisme. En gros, on a fait de façon contemporaine de l'épicurisme un hédonisme. Un hédonisme. Or, l'épicurien, c'est pas d'abord un hédonisme. Il ne s'agit pas de ça. Voilà, ceci ouvre sur une réflexion importante qui est contemporaine. Et là, ça renvoie aussi à ce que dit Jean-Claude Miner. On est passé à une société de ce qu'il appelle de l'illimité, à tout niveau, dont l'économie est le moteur d'ailleurs. Et on peut rapprocher ça, le problème du risque écologique et environnemental, au fait qu'on soit dans une société de l'illimité. Ce qui amène à une société, alors c'est Tony Negri qui a écrit des beaux textes là-dessus, il dit on est dans une société de la démesure. C'est une situation historique qui est absolument nouvelle, parce que dans les sociétés traditionnelles, dans la Grèce antique et encore à la Renaissance, on était dans la société de la mesure. Ce qui guidait, c'était la juste mesure. Et la juste mesure, c'est la juste proportion. C'est ce qui a permis une expression picturale qui est très intéressante à étudier de près, c'est l'invention de la perspective à la Renaissance. La juste proportion qui obéit au fond, si on parle en termes grecs, qui obéit à la loi du logos. C'est-à-dire à cette règle de l'ordre du monde, c'est bien plus que ce qu'on appelle la raison, et encore bien plus que ce qu'on appelle le rationnel. Cet ordre du monde, cette loi qui organise le monde et qui fait qu'il y a une harmonie dans le monde. Et c'est ce qui fait, que je vous le rappelle, que cosmos veut dire aussi bien le monde, le cosmos, que la beauté, qu'un bijou, un beau bijou. D'où le fait que ça donne aussi en français le mot cosmétique, hein, je vous le rappelle. Et donc, on est dans une société de l'illimité, de la démesure, ce qui correspond à une société où c'est débridé le désir de. C'est-à-dire que la puissance du désir, qui est sans objet, mais qui a besoin d'objets toujours plus nombreux pour s'exprimer, c'est déréglé auprès de l'individu contemporain, qui est dans une espèce de toute-puissance de désir qui n'aboutit qu'à la frustration permanente. D'où le fait que l'individu contemporain, fondamentalement, devient fou. Oui, profondément, il faut l'entendre. Je renverrai par exemple aux travaux d'Ehrenberg sur l'évolution de la maladie mentale, qui désarçonne les psychiatres d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est passé d'une maladie mentale assez circonscrite et obéissant à un tableau nosographique à peu près défini, à des formes de maladies mentales, ça s'est accéléré autour des dernières décennies, qui sont difficiles à cerner, à définir, qui n'entrent plus dans les... Et c'est ce qu'on va appeler, Ehrenberg dit cela, ce qu'on appelle de ce thème, de ce mot valise, passe-partout, qui est la dépression. Et ce qu'il traduit par la souffrance d'être, la fatigue d'être soi. La fatigue d'être soi. C'est que le riche, que ce soit le propriétaire, l'aristocrate, ou que ce soit ensuite le grand bourgeois industriel, il était soumis à une éducation extrêmement stricte, à une disciplina, ce que Foucault a parfaitement analysé. Par exemple, les écoles jésuites se sont développées pour ces gens-là. Et le principe de l'enseignement jésuite, c'est la disciplina. Là, je renvoie à Foucault, au travail de Foucault sur le sujet. Donc, il y avait une extrême discipline du désir. Ce n'était pas du tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce que voit aussi pour la grande bourgeoisie. Je renvoie aux analyses de Max Weber sur la grande bourgeoisie industrielle, qui fondamentalement, sa thèse, je crois, tient la route, est issue du calvinisme, du protestantisme calviniste. Et je peux te dire que les grands industriels du 19e, qui étaient riches, ne profitaient pas du tout de leur fortune parce qu'ils étaient soumis à la discipline du travail. Mais par contre, où tu as raison, et Weber le montre déjà, il voit déjà, donc c'est fin 19e, début 20e, pointer ce qu'il appelle une nouvelle forme de capitalisme, qui est le capitalisme qu'on traduit en français par le capitalisme voyou. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce capitalisme-là qui a triomphé.
Mais je crois qu'il y a, enfin, dans mon chemin philosophique, ce que j'appelle le grand amplificateur. Je pense qu'on est dans un paradigme nouveau que j'appellerais celui de l'amplificateur, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on devient fou, d'une disproportion entre les causes et les effets. C'est les théories du chaos. C'est-à-dire que avant l'invention des médias, finalement, et de la massification, les médias permettent une démultiplication des choses. Donc, tout est disproportionné. Le salaire du grand footballeur, il y a de quoi devenir fou. Ou le salaire du grand PDG, il y a de quoi devenir fou parce que ça ne correspond plus à rien. Ça ne correspond plus à rien. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique même entre l'effort et sa récompense. Soit on réussit, alors on est le premier au hit-parade et on reçoit trop, ce qui rend même fou ceux qui sont les vedettes.
Absolument.
Et soit éliminé, ce qui développe les réflexes de survie, alors que le deuxième n'est pas beaucoup plus mauvais que le premier, mais il n'est pas le premier. Ça fait un monde pyramidal. Et on devient rien. On devient rien. Et ça, je crois que ça rend fou et ça dérègle tout, y compris la logique des comportements humains.
Oui, mais les médias,
un petit coup de mitraillette.
Ce n'est que, comme tu dis, l'amplificateur. C'est pas la cause.
Il y a un coup de mitraillette dans les médias à cause de la disproportion de l'image, produit des effets démesurés au niveau de la diffusion de la peur.
Oui, mais c'est l'effet loupe, c'est pas la cause du dérèglement. Tu as raison d'employer le mot amplificateur, mais l'amplificateur n'est pas la cause. C'est ce qui amplifie un mouvement qui a d'autres causes.
Absolument.
Et les autres causes, je pense que ça touche à cette dictature du désir de. Et alors là, je vais faire exprès de dire ça, je pense que c'est la vulgate, je dis bien la vulgate psychanalytique qui joue un grand rôle dans la matière. Parce que la vulgate psychanalytique a quand même, de façon comme ça un petit peu insidieuse, sournoise, réorienté les principes éducatifs, que ce soit les pédagogies scolaires, etc., sur des voies complètement fausses qui n'ont fait que justifier et légitimer l'absence de principes moraux de limitation des mauvais désirs, des désirs non réalisables. Et que du coup, on en est arrivé au fait que tout principe de limitation, et surtout l'auto-limitation, c'est-à-dire ce que les stoïciens appellent askésis, c'est-à-dire l'ascèse, c'était mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on combat tout ce qui est principe d'askésis, de l'ascèse, c'est-à-dire d'une autodiscipline, d'une discipline d'auto-limitation. Et donc, ça crée une société impossible. On en parlait hier avec, Emmanuel Ruben. Il y a un sociologue qui avait écrit un livre important qui s'appelait « La lutte des places ». On est passé de la lutte des classes, comme structurant les rapports sociaux, à la lutte des places. La lutte des places, c'est quoi ? C'est que la société ressemble à une espèce de grand jeu social où tout le monde veut s'étaler de plus en plus, avoir de plus en plus de place, et chacun se bat pour la place. Mais parce que personne n'accepte de s'auto-limiter. Donc il y a un problème de place à un moment donné. C'est pas qu'on soit trop nombreux sur Terre, c'est que tout le monde veut occuper le plus de place possible. D'ailleurs, l'expression courante est très symptomatique, qui consiste à dire, pour mesurer la valeur de quelqu'un, quelle est sa surface. Lui, il a de la surface, voilà. Et cette expression courante est très symptomatique. Ce n'est plus quelqu'un qui a de la hauteur, c'est quelqu'un qui a de la surface, quoi. Il faut s'étaler. Donc, qu'il y ait un problème de lutte des places, il ne faut pas s'étonner. Donc, qu'il y ait un problème de société, il ne faut pas s'étonner. Qu'il y ait un problème de plus en plus d'exclusion, alors qu'on est dans un monde où, normalement, on peut davantage partager qu'autrefois, on ne partage pas. Et donc, il y a de plus en plus d'exclus. Et que la distorsion entre les riches et les pauvres ne cesse de s'élargir, le problème, il est fondamentalement... Je tiens que c'est la vulgate psychanalytique qui est la cause. Et c'est bien le problème. Pourquoi ce modèle, c'était le seul possible? Historiquement, au départ, ce n'était pas vrai. Il se trouve que c'est devenu le seul modèle possible et que probablement, il est trop tard pour reculer. Mais n'était pas donné, à travers l'histoire du monde, que ce ne fut que le seul modèle possible.
D'accord, oui. Mais maintenant, dans l'état actuel des choses, moi je pense que c'est un des critères de la folie du monde, c'est que 9 milliards de personnes voudront les mêmes choses.
Ce que dit Eric est assez juste sociologiquement dans notre société. Moi, ce qui me frappe, mais chez nous, c'est nous, on est au cœur de l'Occident, justement. Ce que on peut constater, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes générations qui font des choix de vie différents. Ah si, il y a un phénomène qui se développe, mais encore une fois, le quantitatif, ça c'est la dictature de la démocratie d'opinion. L'évolution d'une société ne se joue pas sur la quantité, ça se joue ailleurs, ça se joue sur la qualité. Je rappelle cet épisode biblique qui est une grande leçon, quand Abraham intercède au près du divin qui dit « Je vais détruire Babylone ». Et Abraham qui intercède pour éviter la destruction auprès du divin, qui dit « Mais s'il y a 100 personnes qui ont été justes, est-ce que tu vas détruire ?» Et le divin dit « Non, non, s'il y a 100 personnes, je ne rêve pas ». Donc ce n'est pas un sondage qu'il va faire, qui va consister à dire qu'il y a 50% plus une, s'il y a 50% plus une, je ne vais pas détruire. Non, ce n'est pas la logique. Et donc Abraham continue, s'il y a 10 personnes qui ont été justes, est-ce que tu vas détruire? Non, je ne vais pas détruire. Donc là, on est loin de 50% plus 1. Et il dit au final, s'il y a une personne, je ne vais pas détruire. Et donc ça remet en place nos approches liées à la doxa, cette démocratie d'opinion qui n'est pas la vraie démocratie, qui consiste à dire 50 plus 1 ont raison. C'est pas vrai, 50 plus 1 n'a pas forcément raison. C'est d'ailleurs pour ça que les Grecs, dans la démocratie grecque, à un moment donné, on peut utiliser le tirage au sort pour désigner. Et que l'expérience que les hellénistes montrent, c'est que le tirage au sort n'était pas forcément plus horrible, plus éloigné de la justesse que le 50 plus 1. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a que, je sais même pas le pourcentage, que 2%, 3%, j'en sais rien, 5% de jeunes, d'individus appartenant à ces nouvelles générations qui font d'autres choix que... Mais regardez même sur des personnes plus âgées, on en parle de plus en plus, des gens qui sont sur une carrière de réussite sociale, qui gagnent beaucoup d'argent et qui, à un moment donné, se disent « c'est une impasse, j'arrête tout, je change toute ma vie parce qu'au fond, je n'atteins pas du tout la patella, le bonheur, le bien-être, et donc je change complètement, je vais vivre à la campagne, c'est plein d'options différentes. » C'est un phénomène social qui commence à se développer de plus en plus. Et tu ne peux pas nier ce constat sociologique. C'est un constat qui est analysé, il y a des études qui le montrent, qu'il y a de plus en plus de gens, je parlais des jeunes générations, mais aussi des gens plus âgés qu'on recrute dans les catégories sociales moyennes supérieures, qui, à un moment donné, se rendent compte de l'impasse qui est leur vie et font des choix radicalement nouveaux. Je pense que la tendance actuelle est beaucoup plus diffuse et du coup massive qu'elle n'était dans les années 70. Dans les années 70, il y avait un mouvement idéologique qui était visible, mais qui concernait très très peu de personnes. Je parle de ceux qui ont les communautés de retour à la nature, etc. Tant qu'on le croit quantitativement même. Oui, oui, ça c'est clair.
Oui, mais on a quand même un choix entre une perspective productiviste qui est dominante, il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau mondial.
Ça, c'est l'héritage. C'est l'héritage.
Et puis, quelque chose qu'on appelle peut-être une utopie non productiviste, et le seul espoir qu'on a, c'est qu'il y ait des initiatives nouvelles et des choses imprévues qui naissent à droite, à gauche, c'est-à-dire que ce ne sera pas la révolution autoritaire ni des initiatives personnelles, mais il faut espérer ça, sinon on est très mal barré.
Oui, mais ça fait évoluer, les choses. Par exemple, il y a eu un exemple il y a quelques années assez connu d'étudiants, je crois que c'était à Montpellier, qui avaient récupéré dans les containers poubelles d'un supermarché des aliments encore consommables. Effectivement, ils ont été pris par un vigile et ils ont été traînés au tribunal, que le droit fait que c'était interdit. Ça a complètement évolué. Et vous savez, on avait demandé d'ailleurs les hypermarchés, du coup, arroser de Javel ou de chlore pour éviter.
Ça, c'est le délit maintenant.
Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, au contraire, légalement, on peut récupérer ce qui est, et c'est même encouragé, ce qui est dans les conteneurs.
C'est une obligation.
C'est une obligation.
Voilà. Et verser de l'eau de Javel est devenu le délit.
Donc ça, c'est un phénomène qui prouve une évolution, qui prouve que le droit ne fait que sanctionner après coup. Alors le droit écrit, mais aussi la jurisprudence, le droit positif, de faire que sanctionner l'évolution des mentalités aussi. Le droit, c'est une construction. Très bizarrement, ceux qui se réclament du plus grand matérialisme marxiste sont dans le divin. Parce que le système avec un grand S, c'est Dieu. C'est la même chose. Dans la façon de penser, le système, c'est quoi? C'est précisément c'est la toute-puissance de l'individu qui n'obéit qu'à cette loi illusoire, qui est à l'opposé du stoïcisme, pour le coup, cette loi illusoire de l'illimité, de l'infini du désir se portant sur tous les objets successifs et qui ne souffre pas la limite. Le système, c'est ça, c'est la résultante de ça fondamentalement. D'où le constat psychiatrique, que j'évoquais avant, en appuyant notamment sur Ehrenberg. C'est pour ça qu'il y a, ça c'est ce que pensaient les Grecs, et ça c'est une façon de penser très juste, il y a une analogie complète qu'il faut faire entre le macrocosme, le cosmos, la société comme un cosmos intermédiaire, et le microcosme qui est l'individu. Je veux dire, c'est analogique. Il y a une similitude des formes. Et je vous rappelle le petit. Oui, mais l'Antiquité, les philosophes grecs l'avaient vu. Rappelez-vous le petit texte extrait de Puissance et Sagesse que j'ai lu l'autre fois de ce grand philosophe et sociologue, George Friedman, où il disait en gros ce qui a échoué dans la Révolution, c'est fondamentalement que chaque sujet engagé dans l'idéal révolutionnaire n'a pas été digne, n'a pas cherché à se rendre digne de l'idéal de la Révolution. Et il a profondément raison quand il dit ça. Donc il y a une correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Donc le système, c'est un système de pensée, c'est notre opinion faussée, intériorisée. C'est notre défaut de jugement, notre défaut d'évaluation juste qui nous empêche d'être heureux individuellement, c'est-à-dire d'être dans un état de tranquillité d'âme, qui nous empêche d'être heureux, parce que le bonheur, pour les stoïciens, je crois que c'est très juste, le bonheur, c'est précisément cette absence de trouble qui nous rapproche d'une plénitude, de la plénitude de l'être, sachant que l'être humain n'atteindra pas la plénitude de l'être. Mais tant vers, c'est une tension vers permanente. C'est la définition de la sagesse. Et c'est pour ça que Socrate, de ce point de vue-là, les stoïciens étaient très marqués par Socrate. Socrate dit, moi je ne suis pas philosophe, je tends vers la sagesse, mais voilà, c'est une tension vers, c'est un cheminement, une voie, une piste à suivre. Une façon de sortir de l'aporie, de toutes les apories de la vie. Et une des plus grandes apories, aporia, c'est le passage qui est fermé, hein, le chenal du porc qui est fermé, c'est l'absence de passage, l'absence d'issue. C'est ça l'aporie. Et tout l'enjeu de la sagesse, c'est de sortir des apories, et notamment des apories nées des passions mauvaises, de la frustration, etc. Mais il y a un optimisme fondamental dans le stoïcisme, parce qu'autrement, ce n'est pas des masos. C'est en gros, c'est justement dans une société où le monde est perturbé, on est marqué par l'angoisse, l'angoisse du monde, l'angoisse de l'avenir, c'était ça ce que pensaient les stoïciens. Où on n'a plus de repères, on n'a plus de place, clairement. Comment éviter d'être malheureux? Et c'est possible. Il y a un chemin possible. Donc ça, c'est optimiste. Parce que faire un constat d'impasse, ça arrive. Maso, il vaut mieux être dans l'illusion dans ce cas-là que d'être lucide et de se dire ben, il n'y a pas de solution. Non. Il y a une piste qui est ce chemin et le manuel d'Épictète propose un chemin. On peut dire que ce n'est pas que ce chemin qui est possible, que les épicuriens proposaient un autre chemin, que les platoniciens proposaient un autre chemin, que les néo-platoniciens proposaient un autre chemin. Mais néanmoins, c'est des chemins, des propositions de sortir de l'impasse, de l'aporie. Et c'est ça qui est important à renoncer. Je vois l'heure, je voudrais terminer, parce que l'autre fois je ne voudrais pas réenchaîner là-dessus, sur le troisième pilier, qui est la discipline de l'action. Alors là, il y a un maître mot dans le stoïcisme qui est la horme, enfin H-O-R-M-E, horme, qui est l'impulsion à agir. L'être humain est un homme d'action, d'une certaine manière. C'est le mouvement, on agit par rapport, et j'irais même, et les Grecs le pensaient, tout être vivant, les animaux, ont une impulsion à agir. Se mettent en mouvement. Par rapport aux situations vécues, on a toujours une impulsion à agir. Le problème de cette impulsion à agir, c'est qu'elle peut être contre nature ou pas. Alors, je fais exprès d'utiliser cette expression française parce que là encore, source de tous les contresens. Pour les stoïciens, agir contre nature, ce n'est pas un problème de moralisation, de moralisme. C'est de agir de façon non consonante avec le logos, c'est-à-dire avec les lois qui régissent l'ordre du monde et l'harmonie du monde. C'est d'être en dissonance. Et le problème de l'action, c'est pas celui de sa réalisation possible ou pas, contrairement au désir. Le problème de l'action, c'est celui de son opportunité. Et la sagesse et la morale stoïcienne consiste à se poser toujours la question, par-delà l'impulsif, l'impulsion, est-ce qu'il faut agir en telle circonstance ou est-ce qu'il faut s'abstenir d'agir? Et ça touche à un autre principe essentiel, à une autre notion essentielle que j'avais déjà évoquée dans la philosophie grecque, qui n'est pas propre au stoïcisme, que l'on retrouve chez le platonisme. C'est le sens du kairos, K-A-I-T-R-E-M-A-R-O-S, qui est une notion centrale. Le kairos, qui est un très beau mot, on peut le traduire par le bon moment. C'est le bon moment, l'occasion, le bon moment. Il faut acquérir le sens du kairos pour contrer l'impulsion qui nous amène trop souvent droit dans le mur. Voilà, le kairos, je renverrai notamment à ce très beau livre, c'est une intelligence de l'âme qui se forge. Cette intelligence, c'est ce que les Grecs appellent la métis. La métis, qu'on transcrit M-E, accent grave, T-I-S. Alors je renvoie au très beau livre qui est paru dans une collection poche, si je me souviens bien, c'est Champ Flammarion. Oui, qui a écrit la Métis, ou Vernant, c'est peut-être les deux à la fois. Vous savez, les grands hellénistes français, c'est Jean-Pierre Vernant, et la Métis, ça doit être d'Étienne et peut-être Vernant avec. Voilà. Grand connaisseur de la Grèce antique, qui était plus anthropologue que philosophe d'ailleurs. Et donc, il y a un livre qui s'appelle La Métisse et qui montre ce qu'est cette intelligence, qu'on peut traduire d'une façon pas très juste par la ruse, l'intelligence rusée ou les ruses de l'intelligence. Alors, prenons des exemples concrets. Ce qui est la métisse et qui est clair, c'est la métisse qui permet de saisir le caillos, c'est-à-dire d'agir au bon moment. Un pêcheur à la ligne ne sera jamais un bon pêcheur s'il est démuni de cette métisse, c'est-à-dire du sens du caillos. Le pêcheur à la ligne, la question du pêcheur à la ligne, c'est de ferrer au bon moment. Si vous ferrez trop tôt, le poisson se va détacher, c'est foutu. Si vous ferrez trop tard, le poisson va aussi s'arracher la bouche parce qu'il va se débattre et du coup, quand on ferre, la tension. Donc, il faut ferrer au bon moment. Un autre exemple que prend, je crois, Platon, c'est les compétitions de chars. De chars, les concurrents qui doivent gagner dans l'arène, autour de la piste. C'est extrêmement compliqué parce que généralement, celui qui perdait, c'est celui qui s'accrochait à l'autre et la roue s'arrachait ou dont les deux chevaux se cognaient et du coup, l'élan était brisé et perdait. Donc, tout l'enjeu qu'on retrouve, c'est un sport moins noble, dans les courses automobiles. La Formule 1, c'est exactement cela. Ceux qui perdent, c'est ceux qui ne savent pas doubler l'autre sans s'accrocher ou sans accrocher l'autre. C'est foutu. Donc, il faut savoir trouver, et parfois, c'est un centième de seconde, le passage, le bon moment pour doubler l'autre. C'est ça la métisse, et ce bon moment, c'est le kairos. Mais plus largement dans la vie, c'est faire un choix d'action. À quel moment il faut choisir de passer à l'action? Voilà, c'est que ça soit pour un général d'armée, pour soit dans sa vie professionnelle, pour tout exemple. Mais c'est pour ça que les philosophes grecs... Mais le problème, mais précisément, le problème aujourd'hui qui est soulevé, c'est celui-là. Et on est en pleine confusion là-dessus, c'est-à-dire, il y a une version qui se répand dans la doxa qui est que toute fleur, toute drague, il faut les rejeter. La question, elle n'est pas là. C'est la question du kairos. C'est un art, c'est un art. Le savoir de l'occasion propice. L'opportunisme, c'est une perversion de ça. Alors, c'est vrai, mais il y a un problème en français qui est lié à l'anglicisation de la langue française. C'est qu'en français, on a troqué le mot opportunité qui est répandu au mot occasion. L'occasion. Et le problème d'opportunité, c'est que c'est un mot qui vient, c'est un anglicisme. Ça vient de l'anglais. Et que opportunité, c'est un mot qui est lié fondamentalement au langage économique de l'intérêt économique, du management. Et du coup, ça perturbe complètement le sens des mots en français à cause de cette anglicisation. Alors, je ne sais pas pour l'espagnol, mais en français, c'est clair que le mot opportunité n'existait pas au départ. Et qu'il fallait dire occasion. Une occasion, d'ailleurs, ça reste dans un certain langage, quoi. Bref, donc on peut dire que l'opportunisme est une dérive du sens du kairos, parce qu'au fait, il faut raccrocher dans la morale stoïcienne le kairos au fait, au choix du bon moment pour agir, au fait que c'est toujours par rapport à la finalité du bien. La finalité du bien. Alors que l'opportunisme, c'est la finalité de l'intérêt personnel. Pardon ?
La bœuf, c'est le kairos. Il dit, c'est maintenant, il faut tout le roi.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils savent ne rien faire. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal. Et la grande sagesse, c'est...
De s'abstenir d'agir. De s'abstenir d'agir, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. C'est important. Et que ça créera de la dissonance dans l'ordre du monde, bien sûr, ça, c'est essentiel.